26 répliques sont seules.
Bonjour à vous, bonjour à tous. On est mercredi sur la radio HDR et on est ici fidèle au rendez-vous avec Nico Mosquito pour vous parler de cinéma. Et puis là, en plus, c'est une émission un petit peu spéciale parce que très bientôt, c'est les fêtes de Noël. C'est la fin d'année et puis en la fin d'année, ben, des fois, on prend un peu de temps pour aller avec les enfants. Alors là, je vais essayer de faire large quand même, d'inviter un petit peu tout le monde à aller au cinéma. Et surtout, je suis allée rencontrer l'un de nos exploitants de la région. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors non, il n'est pas tout à fait exploitant, lui. Il fait partie des métiers de l'exploitation puisqu'il est projectionniste au départ. Et son métier a bien changé. Il s'appelle Damien. On l'écoute.
Par hasard, je suis arrivé. Moi, j'étais électricien de base et en fait, c'est un ami qui était agent d'accueil qui m'a appelé parce qu'il cherchait un opérateur projectionniste. Alors, comme ça court pas les rues, du coup, il fallait une formation technique. Donc, moi, j'avais un BEP, un bac pro maintenance. Donc, du coup, j'ai répondu à l'offre en fait et je me suis présenté. C'était en 2000. Du coup, ça s'est fait assez vite en fait. Le 15 février 2000, j'ai été embauché le 1er mars. En fait, l'ancien opérateur avait un préavis de 2 mois à faire et du coup, J'ai été formé sur le tas, comme on dit, par l'ancien projectionniste. Comme j'ai été embauché et que je pouvais pas. En fait, j'ai passé mon CAP d'opérateur projectionniste par le CNED, par les cours par correspondance. Et j'ai été formé directement en technique par Alain Sormulé, qui est directeur général et directeur technique du groupe Noé, qui est un passionné technique. Donc, du coup, ça a été tout de suite plus facile. Et j'ai passé mon CAP courant de l'année, j'avais des cours, et du coup, je l'ai passé en 2001. Et donc, j'ai eu mon CAP en 2001. Voilà comment je suis arrivé un peu dans le cinéma.
Dans une seconde, t'avais quel âge jusqu'à ça ?
J'avais 20 ans.
Il avait 20 ans, c'était donc il y a quelques années, c'est pas si vieux que ça. C'était il y a une vingtaine d'années à peine, hein, il le dit lui-même, puisqu'il est rentré dans les années 2000. Et c'est drôle de voir comme ça comment les uns et les autres sont arrivés dans le milieu, dans les métiers du cinéma. J'aime bien vous les faire découvrir. Projectionniste, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est pas seulement envoyer les films et puis derrière aux commandes de justement de cette cabine qui a bien changé en quelques années. J'avais envie de vous parler d'un film et je suis très très frustrée parce que je ne peux pas vous le faire écouter parce qu'en fait il est en arabe, en anglais, en russe, c'est un peu chargé donc c'est un peu difficile et nous n'avons pas de version française. Pour tous ceux qui ont envie de découvrir ce rythme qui est un petit peu particulier, c'est un film tchadien, qatari et tchadien, c'est Talking About Trees. Et l'histoire, c'est un film documentaire qui traite de Ibrahim, de Souleymane, de Manar et d'Al-Tayeb, qui sont cinéastes, des facétieux et des idéalistes et qui sillonnent dans un van les routes du Soudan pour projeter des films en évitant la censure du pouvoir. Et ces quatre amis de toujours se mettent à rêver d'organiser une grande projection publique dans la capitale Khartoum et de rénover une salle de cinéma à l'abandon. Son nom, le nom de la salle de cinéma, c'est La Révolution. Est-ce qu'ils parviendront ou non à le faire ? Comment ? C'est avec un rythme à la fois doux et à la fois vraiment passionné, on les suit, redécouvrant quelques bobines de films qui sont ici et là parce que les cinémas ont été abandonnés et il y a un cinéaste qui décrit très bien la situation et qui dit bah, qu'ils doivent se placer entre deux appels à la prière et qu'il y a plus d'appels à la prière bien sûr qu'il n'y a de séances de cinéma puisque les cinémas ont été tous fermés. C'est assez intriguant, c'est délicat, c'est joli et ce qu'il y a de plus chouette et de plus touchant, c'est surtout de les suivre à travers leur passion qui, vu d'ici, vu de notre Normandie par exemple, nous paraît complètement improbable. Et justement, voilà, je fais le lien avec notre Damien qui a découvert le cinéma, enfin qui était passionné. Hein. Justement, on va l'écouter. Comment est-ce qu'il est arrivé là ? C'est quoi son parcours ?
Ma première séance ciné, je crois que c'était Rocks et Rookie au Palace, là où j'ai commencé. Donc je devais avoir 8 ans, je crois. Et après, je suis allé voir Germinal dans le cadre déjà Les Roses Sauvages. Dans le cadre, c'était le dispositif d'école au cinéma et collège au cinéma aussi. Ouais, l'éducation à l'image, tout à fait.
À Fécamp,
au Palace, là où j'ai commencé. Et voilà, donc oui, j'étais un mordu. Donc après, moi, ça a été un peu. C'était un peu magique, quoi. Je passais mon temps à câbler des armoires EDF, quoi. Et du coup, je me retrouve dans une salle de ciné. Enfin, voilà, c'est cette magie du ciné qu'il y avait. Donc, et du coup, j'en suis devenu un peu mordu. Et puis, ça va faire 20 ans. Ça va faire 20 ans, au mois de février, que je suis dans la boîte, que je suis chez Noé. J'ai commencé aide opérateur. Après, je suis passé opérateur. Après, je suis passé responsable de site du cinéma Grand Large de nouveau en 2003. Depuis juillet l'année dernière, je suis responsable technique adjoint du groupe Noé, donc pour la partie maintenance, projection et sécurité incendie également.
C'est donc Damien Devresse. Ce qu'il ne dit pas et ce qu'il ne dira pas, parce qu'il nous l'a dit que comme ça en off, c'est qu'il a été décoré chevalier des arts et des lettres. Et oui, ça c'est une petite distinction toute particulière, passée pour tout son parcours et pour tout son engagement dans le milieu du cinéma. Et lui, il se disait, mais enfin, moi je ne mérite pas ça, pourquoi on veut me donner ça? Et en fait, bah, il, bien sûr que si, il le méritait, vu tout son parcours et tout son engagement dans le métier, dans le cinéma. Voilà, voilà. Alors un film qui est extraordinaire, un parmi d'autres évidemment, et qui mérite d'être vu, et même si là je crains qu'il ne passe qu'en anglais, qu'en VO, mais qui vraiment raconte qui est dans un temps lui aussi complètement différent et qui nous a bouleversé, nous, quand on l'a vu à Cannes, avec notamment, j'étais avec Linda qui est notre Rouennaise, l'une des Rouennaises qui est descendue avec nous. C'est le film de Terrence Malick. Et pourquoi je parle de ce film-là? Terrence Malick a toujours une habitude, il a vraiment une patte très très particulière, et une habitude de nous faire rentrer dans un univers qui est le sien, qui est parfois, on va même dire, allez, j'ose le dire, c'est un peu de la masturbation intellectuelle. Parfois, c'est même un peu chiant. Il va dans des délires qui moi, il me déconnecte très souvent. Mais là, pas une seconde. Là, il a joué sur l'ouverture de caméra, sur la focale. En fait, il joue sur ce qu'on appelle la focale, c'est-à-dire que les plans sont toujours extrêmement larges, donc même quand il s'agit de gros plans, on a toujours une contextualisation de nos personnages. Parce que qu'est-ce que c'est que le synopsis? C'est inspiré de faits réels, c'est un petit détail, mais même si ça ne l'était pas, l'histoire n'en est pas moins forte. Franz Jagerstatter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, puisqu'il refuse de prêter allégeance, il est passible de la peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa femme, Fanny, et ses enfants, Franz reste un homme libre. Une vie cachée raconte l'histoire de ces héros méconnus et raconte surtout comment ça se vit, comment est-ce que lui, il est traversé par ses angoisses. Oui, en même temps, c'est pas un film angoissant, mais lui, il sait que non, c'est pas possible. Pour lui, c'est une évidence. Il peut pas faire autrement que de ne pas prêter allégeance. Et malgré tout le contexte, malgré tout le village, malgré tout ça, malgré le regard des autres qui se sont laissés endoctriner. Voilà, une vie cachée. On vous passe, merci Nico, on vous passe la bande-annonce, même si elle est en VO, parce que la musique est belle et parce que certains comprennent quand même l'anglais. On y va.
I had a dream. I thought that we could build our nest high up in the trees. Fly away like birds to the mountains.
Do you think your defiance will change the course of things?
I can't do what I believe is wrong. We have to stand up to evil. What's happened to our country? To the land we love?
You cannot say no to your race and your hope. You are a traitor.
Sur la musique, puisque c'est difficile, là vous l'entendez, elle porte, elle donne déjà les larmes aux yeux, elle fait déjà pousser les poils. C'est James Newton Howard qui a fait son apparition dans l'œuvre de Terrence Malick. Je lis un petit mot que j'ai trouvé là. En fait, Terrence Malick change assez facilement de compositeur. Parfois, c'était Ennio Morricone, Hans Zimmer, James Horner, Alexandre Desplat, Anand Townsend, tout en convoquant majoritairement des titres qui étaient déjà existants, comme du Bach, du Beethoven, etc., etc., allant piocher dans le classique. Bref, cette BO est absolument sublime, mais évidemment, elle se fond dans l'image, ou je ne sais pas si c'est l'image qui se fond dans la musique. J'ai continué, et nous continuons avec Damien Devresse, qui est à Fécamp, et qui nous parle des changements du métier, comment ça a changé.
De 2000 à 2011, c'était uniquement du 35. Donc après, moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire du 70 à Elbeuf parce qu'il y a toujours la grande salle qui est équipée. J'ai fait un petit peu de séance en 16 mm aussi. Et on a eu le passage en 2011, passage au numérique où pendant un an, on a tourné encore en 35 et en numérique. Et alors d'aujourd'hui, on est toujours en numérique. Donc, et je continue de faire un petit peu de péloche grâce au Festival de Cannes. Parce qu'il en reste toujours un peu. Pour moi, le métier est complètement différent. C'est-à-dire que déjà, depuis le passage au numérique, on est passé un peu un statut de technicien polyvalent, on va dire. C'est-à-dire qu'à l'époque du 35, quand c'était en pellicule, il y a tellement de choses à faire, de rechargement, de tout, de montage et autres, que j'étais que en cabine. Et depuis 2011, je suis en cabine et aussi en bas, dans le hall. Alors après, moi, c'est aussi important que je sois dans le hall en tant que responsable de site, d'être aussi proche de la clientèle et puis d'avoir un peu les attentes des clients. Mais le métier aujourd'hui, numérique. Là, à l'heure où je vous parle, je suis devant mon écran en train de constater ce qui se passe et de faire ma nouvelle programmation et de faire... Donc, je vais en cabine uniquement pour faire les tours, voir que tout se passe bien et faire un peu de la maintenance quand il y a besoin de faire la maintenance. Mais sinon...
Quand il y a les rencontres aussi.
Quand il y a les rencontres et les débats, parce que du coup, il n'y a pas d'automation, il n'y a rien, vu que c'est du live. Donc du coup, tout est géré, on gère tout manuellement, quoi. Que ce soit des commutes de son, des changements de format, de la lumière, de tout. Le métier a changé, quoi. Mais ça me passionne toujours, ça reste du cinéma, même si pour moi, le cinéma, c'est quand même la péloche, voilà.
Et vous l'entendrez plus tard, parce que je lui ai fait les petites questions cinéma, mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire le montage. Il ne peut pas dire qu'il y a des bons films ou des mauvais films, il regarde tout et il a un grand respect pour justement ce qu'est le cinéma d'une manière générale. C'est un passionné de cinéma, quelle que soit l'évolution et les évolutions qui traversent évidemment le métier, le sien et puis les autres. Et je suis là maintenant sur les différents cinémas et sur un film que je n'ai pas vu mais dont j'ai envie de vous parler d'abord parce que j'ai une très très grande confiance en Jean-Marc et Hervé qui sont les programmateurs de l'Omnia à Rouen, mais aussi parce que j'ai envie de varier un petit peu les plaisirs et que là c'est les vacances qui approchent à la fin de la semaine et que du coup les jeunes et les moins jeunes et puis les passionnés de cinéma que ceux qui découvrent, que ceux qui ont juste envie de s'évader, et bien là j'ai un petit film à vous conseiller, j'ai très envie d'aller le voir moi-même évidemment, sinon je vous en parlerai pas. C'est Jeune Juliette de Anne Aymon. Juliette est effrontée, malicieuse, un peu grosse et menteuse. Elle n'est pas vraiment populaire au collège, mais c'est pas grave, c'est tous des cons. Juliette a 14 ans et elle croit en ses rêves. Pourtant, les dernières semaines de cours se montreront très agitées et vont bousculer ses certitudes sur l'amour, l'amitié et la famille.
Let's go! Let's go! Les jambes! Et on pousse! Et on pousse! Juliette, je te watch!
Je vais prendre une grosse moelle au chocolat, trempée dans le chocolat.
1, 2, 3, 4.
Tu trouves pas que souvent quand les gens parlent, c'est vraiment plate?
Ouais.
Ton bout de chum a l'air si cool que toi?
Ouais, c'est ça.
Je vais déjà enseigner niaiser de même, je vais pas me tenir avec le petit attardé en plus.
Je suis pas attardé, je suis le contraire d'attardé.
Wow.
Je trouve pas qu'il est vraiment beau.
Ah, veux-tu?
Je trouve qu'il ressemble à une échalote flétrie.
Qui se trouve beau à l'école?
Personne. Surtout, je les trouve cons.
Ok, tout le monde. Une grande réception sera donnée imminemment à la résidence de la mort tremblée.
Si c'est pas vous les DJ, nous on y va.
Cool.
Je voulais te dire, toute ta famille, vous êtes vraiment du monde que j'aime.
Je pense que Liam s'intéresse à moi.
Hein? Pas de chum, pas de blonde, seul comme un chien.
Est-ce que tu penses que c'est possible qu'un gars tombe en amour avec moi?
Salut.
Ben, un jour, c'est sûr. Mais pas de suite, là. Hein?
Excuse-moi, j'ai pas fait exprès. C'est pas toi qui es grosse pis qui prends toute la place, c'est ton livre.
Non, merci. J'essaie de maigrir.
Moi, je te trouve bien correct de même.
Pourquoi tu fais ça, là? Ça gâche tout.
Vous avez tout, Juliette.
Vous aurez pas ma pitié, en plus.
Tu comprends pas, là? Je peux pas rester 3 ans de plus dans cette école-là. Tout le monde est con. Hey!
Je l'ai croisé par hasard. Il était tout seul au centre d'achat. T'es-tu folle ou quoi? C'est quoi que t'as dans la tête?
C'était la secrétaire de l'école qui appelait pour demander où t'étais mercredi après-midi. Toi, tu t'es fait passer pour moi.
Comment tu as pu tout savoir ça?
Ah! Cassé! J'étais encore votre père.
On pourrait peut-être apprendre à aimer les gens qui vous aiment et arrêter de courir après ceux qui vous aimeront jamais.
Tiens-toi!
Faut que jamais ça se passe.
Tu vas comprendre quand tu vas être plus grand.
What the fuck? T'es folle ou quoi?
Ouais.
T'as pas mal! Répète après moi!
J'ai pas mal!
T'as pas mal!
J'ai pas mal!
T'as pas mal!
J'ai pas mal!
Et Et avec le cinéma, on fait le tour du monde, puisque là, en quelques minutes, on a entendu un petit peu tous les pays. On est passé au Canada, comme quoi au Canada, il n'y a pas que Xavier Dolan. Hein. Voilà, voilà, et justement, notre Damien Devrez va nous en parler de Xavier Dolan, parce qu'il fait partie de ceux qui restent encore sur de la pellicule. Alors, vous allez me dire, oui, on s'en fiche un peu, c'est un débat de technicien, c'est un débat de cinéphile. Peut-être, oui. Et puis finalement, quand on reviendra vraiment à jouer avec de la pellicule, peut-être que vous vous en rendrez compte vous aussi, très chers amis spectateurs, publics, auditeurs. Pour l'instant, en tous les cas, c'est Damien qui nous parle de la différence, parce que pour lui, c'était important de travailler avec de la pellicule.
Alors, la projection double passe, donc c'est double passe, c'est de la pellicule, c'est du 35, donc en fait, contrairement à l'exploitation en film, quand vous recevez le film qui est en plusieurs bobines, vous faites le montage du film, vous assemblez les bobines les unes aux autres. La différence du double passe, ça se déroulait il y a déjà quelques années de ça, où en fait vous aviez deux projecteurs pour faire une projection. Passer la bobine 1 sur le projecteur 1, la bobine 2 sur le projecteur 2, la bobine 3 vous revenez sur le projecteur 1, et ainsi de suite, en faisant les changements de bobine. Donc c'était un peu plus rock'n'roll, quoi. C'est-à-dire que la qualité de projection, on va dire, contrairement au numérique où vous démarrez et normalement tout se passe bien, là vraiment on va dire que la qualité de la projection dépendait vraiment de l'opérateur, quoi. Que ce soit pour les changements, pour la mise au point, pour tout ça. Donc c'était vraiment, c'est pour ça moi que je suis parti à Cannes, j'ai commencé en 2007, moi c'est mon 13e festival. J'ai fait ma dernière projection double poste sur le film de Xavier Dolan il y a 2 ans. Et les dernières projections 35 que j'ai pu faire à Cannes, c'était l'année dernière, c'était pour le Tarantino. Et également pour le Xavier Dolan aussi, parce que c'est des amoureux de la pellicule et ils ont du mal à passer eux-mêmes au numérique. Donc, du moins sur les festivals, parce qu'en exploitation, le film de Tarantino et de Dolan, du coup, passe en DCP de toute façon. Donc voilà, moi c'est pour ça qu'à la base, je suis parti à Cannes. Bon, même si maintenant à Cannes, bon, bah, tous les ans, ils disent qu'il ne va plus y avoir de péloche, mais il y en a toujours, il y a toujours un réal, un amoureux et autres. Et Thierry Frémaux, voilà, bon, laisse faire, mais bon, pour mon plus grand plaisir, hein, parce que une fois par an, je me dis, j'ai peut-être la chance encore, et en plus à Cannes. C'est plus en double poste maintenant. Depuis cette année, enfin depuis l'année dernière, le Tarantino et le Dolan, les copies ont été montées. C'est copie 35, mais les copies étaient montées comme en exploitation.
Alors pour toi, le plaisir, c'est quoi? C'est d'avoir la copie, la grande bobine, c'est quoi?
Moi, je suis amoureux de la péloche. Donc le fait de charger son projecteur, de bien nettoyer son projecteur, de faire attention, de ne pas rayer la copie. Enfin, je veux dire, d'avoir une qualité de projection au top, quoi. Et quand vous finissez la projection et que tout le monde applaudit et que tout s'est bien passé, voilà, vous avez une fierté qui est différente du numérique, où en fait le numérique, qu'est-ce qui peut se passer à part une panne de courant, un problème sur la machine ou autre, mais je veux dire sinon ça défile, c'est un fichier qui défile, donc à part surveiller pendant la projection qu'il n'y ait pas une pixel morte qui traîne, ou qu'il n'y ait pas tout simplement une coupure de projection, parce que ça reste des machines, ça reste un serveur, ça reste de l'informatique, ça reste tout comme on pouvait avoir aussi des problèmes sur le 35. Une projection sur le 35 à Cannes, le film dure 2h30, vous avez la tête 2h30 sur le chrono, quoi, sur le projecteur. En numérique, vous n'avez pas les yeux 2h30 sur le projecteur, mais vous avez les yeux sur l'écran pour voir si tout va bien, quoi.
Si c'est lancé, en fait.
Mais alors que le 35, voilà, on peut avoir un changement de bobine, un scotch mal fait, on peut avoir une perfo qui saute et on décadre, donc il faut être très réactif, il faut être la mise au point qui peut bouger aussi. C'était vraiment, voilà, enfin je peux pas dire que c'était un autre métier, parce que ça reste on projette une œuvre, donc c'est ça, la finalité en soi est la même chose, on projette un film, sauf que la façon de le projeter est totalement différente, quoi.
En fait, il nous parle de conscience professionnelle, de satisfaction personnelle et professionnelle, justement, hein, d'engagement et d'exigence aussi, je trouve, derrière ce qu'il nous raconte. C'est ça, c'est comment on envisage son métier et comment on a envie de donner quelque chose, de participer à quelque chose. Enfin, j'ai trouvé que vraiment sa passion pour le cinéma était à faire partager. Et voilà, je suis retournée vraiment pour pouvoir vous faire cette interview. Quand il parle de DCP, c'est un mot qui peut vous paraître très vilain. C'est juste fichier le film étant en numérique maintenant, vous le savez, je pense, et donc c'est sur des espèces de disques durs, quoi, si on veut céder disques durs, mais les films sont très très lourds, bien sûr, c'est pas le petit film que vous avez à la maison. Et donc je lui ai demandé, en parlant de films, à Damien, je lui ai demandé, mais du coup, comment tu fais? Est-ce que tu les vois tous, les films? Est-ce que tu pourrais nous en conseiller? Et est-ce que tu les vois tous?
Des bons ou des mauvais films, oui, il y a des bons et il y a des mauvais films. Après, non, je peux plus tous les regarder, de par mon emploi du temps, de par mes responsabilités, c'est complètement différent, on va dire. Il y a 10 ans de ça, oui, je pouvais rester enfermé le mardi soir et puis monter mes 4 copies 35 et puis sortir du ciné à 7h du mat parce que je regardais 4 films dans la nuit, quoi. Je le faisais. J'avais pas d'enfant, j'avais pas de vie de famille, j'avais pas tout ça. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais oui, je l'ai fait pendant des années, hein, regarder un peu tout, et puis si un film me plaisait pas, je pouvais couper la projection, arrêter, et voilà, parce que je faisais ça la nuit, donc après mon service. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Oui. Bah, le cinéma est ouvert, ouais, 360 jours par an, 365 jours par an, donc du coup, et moi, je suis en charge aussi du cinéma de Montivier, cinéma d'Yvetot. Je peux avoir des coups de fil d'autres sites, de certains opérateurs, que ce soit aux Andelys, à Alkirch, dans l'Est, parce qu'il y a un problème sur un film, il y a un problème sur... On fait des retransmissions aussi en direct. J'ai tous mes opérateurs, à chaque retransmission, j'appelle tous les cinémas une demi-heure avant, savoir si tout le monde est OK, si tout le monde a le signal, si tout va bien. Si... Je fais un peu de dépannage aussi par téléphone, ça peut arriver, quoi. Je peux faire des semaines à 7 jours sur 7, parce que la semaine dernière, je devais bosser 5 jours, on a eu un problème sur Yvetot, sur un projecteur, il fallait changer de projecteur, donc je suis intervenu. Le vendredi, on avait une grosse conférence, voilà, qui était assez complexe, donc du coup on m'a demandé de l'assurer, alors ouais. C'était pas forcément prévu. J'ai mes heures fixes entre guillemets où je suis en poste sur Fécamp, et après j'ai ma responsabilité technique qui m'amène à bouger même quand je travaille pas, enfin voilà, en astreinte sur d'autres sites, quoi.
Un métier un petit peu à part, un petit peu particulier, puis comme vous l'avez vu là, lui, puisqu'il est responsable de site, il a un agenda qui est un petit peu chargé, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les projectionnistes, mais voilà, c'est un métier en tous les cas qui reste un métier de passion. Entre deux, je vais vous parler encore d'autres métiers et d'autres passions et d'autres engagements. Brooklyn Affairs d'Edward Norton. Et là, ça aussi, moi, au bout de 2 minutes, j'étais en larmes. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, je suis peut-être une très grande sensible, mais en même temps, c'est fort, c'est assez fort. Je vous le pitch. New York, dans les années 50, Lionel Esrog, détective privé souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami, Frank Mina. Grâce aux rares indices en sa possession et à son esprit obsessionnel, il découvre des secrets dont la révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville de New York. Des clubs de jazz de Harlem au taudis de Brooklyn jusqu'au quartier chic de Manhattan, Lionel devra affronter l'homme le plus redoutable de la ville pour sauver l'honneur de son ami disparu et peut-être aussi la femme qui lui assurera son salut. Bande annonce.
Alors voilà, il y a un truc qui débloque chez moi. C'est la première chose à savoir.
J'ai des fils dans ma tête. J'ai des fils dans ma tête, mon gars.
J'ai des tics et je crie beaucoup.
Si.
Ça me fait passer pour un folle dingo.
Tu peux pas essayer de te retenir.
Touche-le, Belay.
Je suis désolé. Mais dans ma tête, c'est encore plus le merdier. J'arrête pas de triturer les choses. Surtout les mots et les sons. Je joue avec jusqu'à ce qu'ils sonnent juste.
D'accord. C'est pas grave.
Frank Mina.
Messieurs.
Franky, Francadi, Franco.
C'est lui qui m'a appris à me servir de ma tête, à en faire une force. Il m'a trouvé une place dans ce monde pourri. Puis un jour, j'ai merdé.
Franck !
Un coup important se prépare, et ce qu'il a trouvé a pas plu à ces mecs-là. Je le saurai, ils l'emporteront pas au paradis, je te le jure.
Avez-vous la plus petite idée de ce qu'est le pouvoir ? C'est vivre en ayant conscience que vous pouvez faire ce que vous voulez sans que personne vous en empêche.
Ils vont où, tous ces gens ?
Beaucoup d'entre eux disparaissent depuis qu'il est commissaire. Ce qui arrive aux pauvres de cette ville ne faisait pas la une hier et ne la fera pas demain.
Cette ville est aux mains de Buzz Randolph. Et si j'ai envie de construire des routes pendant que le nombre de pauvres augmente, je démolirai autant de quartiers de merde que je voudrais.
Menacez son œuvre et il vous détruira. Calme tes nerfs, Fondango.
Ces gens sont invisibles. Aucun d'eux n'existe.
T'es en danger. Ils vont pas en rester là. Vous êtes au-dessus de la loi.
Seulement en avance sur elle.
Brooklyn Affairs, un film vraiment, mais vraiment, qui m'a emballé. Non seulement c'est l'énergie, mais c'est le rapport à la différence, c'est le rapport aussi à l'amitié, d'ailleurs finalement l'amour qu'est l'amitié, c'est le rapport à New York, à la ville, à la puissance, le rapport au pouvoir aussi, qu'est-ce que c'est que le pouvoir. Bref, c'est un film passionnant, c'est un film très très riche, puis qui a été difficile à monter pour Norton, puisque comme il s'agissait d'un héros qui est atteint de la maladie de Gilles de la Tourette, ben, personne n'en voulait au départ. Puis en fait, il a été suivi par des grands acteurs. Allez, je vous en dis pas plus. Allez le voir, faites-vous plaisir, c'est un bonheur. Et on ressort avec une sacrée banane. Et moi, je l'ai encore dans la tête alors que je l'ai vu la semaine dernière, je crois bien. Bref, il reste, hein, il marque. Pour continuer, j'ai quand même voulu savoir concrètement, parce que notre Damien, là, il part sur qu'est-ce que c'est que le cinéma, la pellicule, les films qu'il voit, les horaires, les machins. Mais concrètement, c'est difficile de percevoir, en quoi ça consiste, si on avait éventuellement envie de donner de faire naître des vocations à certains auditeurs. Qu'est-ce que c'est concrètement son travail ?
Moi, je suis en charge de la technique, la qualité des projections, entretien du bâtiment, parce que du coup, voilà, ça regroupe tout un tas de choses, et de tout ce qui est sécurité incendie aussi, parce que je suis le seul diplômé dans la boîte, du coup, qui est amené à faire passer les commissions de sécurité, avec Alain aussi, entre autres. Mais non, la programmation, non, on est tellement... Enfin, maintenant, la boîte évolue tellement, il y a tellement... Il y a deux fois plus de sorties qu'il y a 15 ans. Enfin, je veux dire, la programmation, c'est un vrai casse-tête. C'est un métier à part entière. Programmateur, c'est vraiment... Donc, nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est éventuellement, quand on reçoit les grilles, c'est changer les films de salle. Déplacer un film d'une salle à l'autre. On garde les quatre films programmés. On ne peut pas y toucher. On ne peut pas déprogrammer un film alors qu'il a été annoncé sur Internet ou sur les programmes. Mais on peut, parce que on connaît bien... Enfin, moi, je connais bien ma clientèle et les films qui passent. Je peux peut-être me dire, voilà... Ce film-là, il est en salle 3 vendredi soir, à mon avis, je le sens pas, je vais le passer sur une salle plus grosse, pour éviter tout simplement de faire des complets, de refuser des gens, d'essayer de s'approcher au maximum. J'ai mon équipe d'agents d'accueil aussi, qui bosse avec moi, enfin là, où, comme tu peux voir, ce soir, je suis tout seul sur des petites séances ou en semaine, en général, on est tout seul, donc là, comme là, on est lundi soir, là, lundi, je fais tout, là, je fais ma programmation de caisse, je fais ma programmation de cabine, plus diverses choses à gauche, à droite, qu'il y a à faire. Et je fais la caisse, je vends les pop-corn, je fais tout. Je fais la technique, j'installe. J'avais une conférence tout à l'heure, donc avec des PowerPoint, machin. Donc il faut aller installer tout ce qu'il faut, les micros, PC, tout. Enfin voilà, mais moi ça m'amuse, donc voilà. C'est pas vraiment, enfin je vais pas dire que c'est pas un travail, quoi, mais j'aime mon travail. Donc du coup, ça passe déjà beaucoup mieux. Quand vous aimez ce que vous faites, vous n'allez pas au travail en reculant, quoi. J'aime le ciné, j'aime le contact aussi. Enfin moi, même si j'étais opérateur avant et que j'étais que en cabine, on va dire, moi j'aime le contact, j'aime les gens. Enfin, moi j'aime parler, j'aime échanger, donc du coup, c'est important aussi que les clients voient aussi la tête du responsable et pas juste le caissier qui n'a pas forcément toutes les réponses, mais c'est pas ce qu'on leur demande non plus. Ce sont des contrats étudiants, et c'est important. Je veux dire, des moments quand il y a beaucoup de monde, forcément, qu'on n'a pas forcément le temps, quand il y a 200 personnes qui font la queue, de parler un peu avec tout le monde. Mais justement, ces soirs en semaine où c'est un peu plus calme, j'aime bien prendre le temps aussi de discuter avec mes habitués, avec des clients ou les gens tout simplement qui posent questions, que ce soit sur les films ou sur... il y a des gens qui s'intéressent aussi à la projection, donc de leur expliquer un peu comment ça se passait, parce que moi je parle de mon métier, voilà, c'est mon métier, c'est une passion, enfin c'est devenu une passion, donc c'est toujours plus facile de parler de quelque chose qu'on aime,
Ces hommes de l'ombre qui travaillent et qui sont, pour nous, spectateurs, c'est insoupçonnable. Toutes ces personnes qui travaillent pour nous donner accès à des œuvres. Et puis, il n'y a pas à juger de la qualité des œuvres, mais à des œuvres qui ont été créées par toutes les personnes de la planète et puis qui nous racontent toutes sortes d'histoires. C'est quand même génial. Merci à eux, évidemment. Merci à tous ces exploitants et toutes ces personnes qui sont derrière les cabines pour nous envoyer les films et choisir et nous les envoyer et négocier aussi. On reviendra sur le travail du programmateur et on en a déjà parlé, notamment des négociations qu'ils ont avec les distributeurs. C'est autre chose. Là, pour l'instant, merci à tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont dans l'ombre et qui travaillent pour nous, pour que dans les salles obscures, on puisse prendre un certain plaisir. Je vais vous passer maintenant la dernière bande-annonce de l'émission qui est pour les petits, parce qu'il y a aussi des films à voir pour les petits. Et là aussi, je ne l'ai pas vu celui-ci, mais encore une fois, confiance aveugle et totale dans la programmation de Jean-Marc et d'Hervé de l'Omnia. C'est Le Voyage du Prince de Jean-François Laguioni et de Xavier Picard. Le film dure 1h10, je crois bien. Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l'existence d'autres peuples. Le prince, guidé par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de chercheurs rêve de convaincre l'Académie de la véracité de leur thèse auparavant rejetée. Un film d'1h16 exactement, un film d'animation France et Luxembourg. Bande-annonce.
Lorsque je repris conscience, je fus bien en peine de dire si je me trouvais parmi les vivants.
roi des Lancots.
C'est un singe d'un autre pays.
Il nous mènera tout droit à la catastrophe.
Et mes recherches, et mon labo.
Eh bien, retournez-y dans votre labo.
Le professeur doit tout savoir de toi pour préparer son rapport.
Qu'il me présente au roi.
Il n'y a pas de roi ici.
Les singes de ton pays doivent être fiers d'avoir bâti une cité plus belle que partout ailleurs.
Voici le singe qui a traversé la mer.
Pour les Nuko, il n'y a pas d'ailleurs.
En quoi est-il si remarquable?
Parce qu'il vient d'un autre pays
qui se trouverait au-delà de la mer. Oui, nous avons compris.
Fais-moi voir ton pays, mon garçon. Ces Nuko ne se parlent pas.
Ils n'ont rien à se dire puisqu'ils font la même chose chaque matin et chaque soir.
Allez, gamin, viens. Et d'où sortent-ils, ceux-là?
Ils vont combattre la forêt.
On dirait qu'elle se révolte.
Certains disent qu'elle se venge à cause de l'extension de la cité.
Tu n'es pas un animal, tu es un singe. Tu pourrais vivre ici, avec les bêtes sauvages.
Il faut aller plus loin.
Je viens avec toi. Tu m'entends, gamin? Je viens avec toi.
Voilà, maintenant vous avez quand même, là on vous a fait une émission spéciale très très riche entre le parcours de Damien, et qui n'est pas fini puisqu'il va nous parler encore un tout petit peu, le parcours de Damien Devresse qui est donc projectionniste à Fécamp, et les plusieurs bandes annonces de films pour vous donner des envies variées d'y aller tout seul, d'y aller avec des amis, d'y aller avec vos enfants, d'y aller avec vos petits-enfants, des petits-petits ou des moyens et des très grands. Et puis pour finir donc, Damien nous parle un petit peu de sa relation avec les réalisateurs, est-ce qu'il les voit les réalisateurs justement, est-ce qu'il passe des moments avec eux? On enchaînera avec Zélie qui a répondu aux questions cinéma. C'était il y a quelque temps. Est-ce que vous vous souvenez de Zélie? Pour certains d'entre vous, peut-être. Elle a participé aux premières émissions Silence. Elle s'occupait des chroniques sur la musique spécifiquement. Et puis depuis, elle est partie à Paris travailler dans la comédie musicale, figurez-vous. Alors on écoute tout de suite Damien. On enchaînera avec Zélie. Moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël et de fin d'année. Profitez bien. Et on se retrouve à la rentrée en janvier 2020.
Je les rencontre quand ils viennent ici, donc du coup quand on reçoit, quand on fait des rencontres, donc on échange pas mal aussi, voilà, sur la qualité de la projection, sur ce qu'ils veulent, après j'en rencontre aussi beaucoup à Cannes, parce que du coup à Cannes je m'occupe des répétitions, de la compétition officielle au Grand Auditorium Lumière, donc les répétitions qui se passent la nuit. Donc du coup c'est important, je veux dire c'est leur bébé quoi qu'ils viennent présenter, pour bien souvent c'est une première mondiale à Cannes. Donc du coup c'est important que la plupart ont vu leur film sur des petits écrans, pas dans la même salle, voir certains films qui ont été terminés. Donc du coup ils n'ont pas forcément tous vu leur film sur un grand écran. Et en plus, la salle de Cannes, de Lumière, qui est à la base, n'est pas non plus une salle de cinéma à la base. C'est plutôt un théâtre, un grand théâtre.
Avec un écran, mais énormissime.
Avec un écran qui fait l'écran de lumière, il doit faire, si je ne dis pas de bêtises, il doit faire 24 mètres de base. Donc du coup, ouais, c'est un grand écran. On va faire une salle de 2400 places, si je ne dis pas de bêtises. Donc oui, de toute façon, c'est impressionnant. De toute façon, Cannes, c'est quand même le plus grand festival du film au monde, avec les plus grands réals, quand vous faites les projections le soir, les officiels à 19h, vous avez tout le gratin. Enfin, puis je veux dire, la moindre erreur de projection, alors c'était plus à l'époque du 35, mais un changement mal fait, un point pas net, c'était Radio Cannes, quoi. Moi, je sortais de mon service, j'ai mon patron qui m'appelait pour me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez foiré un changement? Et tout ce sait, tous les opérateurs, tous les techniciens qui bossent dans n'importe quelle salle au festival, ça va très très vite, quoi. Je veux dire, quand tout se passe bien, en général, tout se passe bien. Oui, mais dès qu'il y a un petit problème, tout de suite, bing, c'est Radio Cannes et tout le monde... pour moi, dans l'ensemble, j'y suis depuis 2007. Donc, on va dire, pour moi, ça se passe bien. Ça veut dire que j'ai pas fait de bêtises. Je touche du bois. J'ai pas encore fait de bêtises. Ouais, voilà. Et puis, j'ai été promu en plus depuis 3 ans. Je suis passé chef de cabine du Grand Auditorium. Donc, oui, c'est une fierté, quoi. J'ai réussi à rentrer en 2007 par le biais
d'Alain Surmulé, qui est mon directeur technique, et de Richard Patry, qui est président de la billetterie des exploitants de cette grande salle. Et Alain Surmulé, qui est mon directeur technique, qui lui est rentré à Cannes en 2000, l'année où je suis rentré dans le ciné, chez Noé. Il est rentré en tant qu'opérateur, lui, au marché du film, et depuis a bien gravi les échelons, parce qu'il est responsable du montage du marché du film depuis l'année dernière. Donc, j'ai passé forcément un entretien sur Paris pour aller bosser à Cannes, à la CST, commission de supérieur technique. Et depuis, voilà, ils m'ont mis un pied dedans, et aujourd'hui, je pense, enfin, moi, je suis fier de mon parcours cannois, on va dire, et mes patrons aussi. Donc, tout le monde est content, donc tout va bien.
Il y a une espèce d'excitation, on le sent dans ce que tu dis. Pouvoir bosser pour le Festival de Cannes, c'est quoi le truc? C'est parce que...
Parce que c'est le plus grand et le plus prestigieux festival du film au monde. Donc voilà, Cannes, qui connaît pas Cannes? Enfin, je veux dire, c'est le plus médiatisé, c'est le plus grand, c'est pour moi, c'est le plus beau, et c'est il y a une certaine... je sais pas, enfin, moi j'ai un plaisir, j'ai un stress à chaque début de projection. Même les premières années où j'allais à Cannes, 3 mois avant de partir, j'avais déjà la boule au ventre, parce que voilà, cette pression, ouais, j'étais c'est pas évident. Moi, quand je suis arrivé, et les équipes sont en place, il y en a qui étaient là-bas depuis 20 ans, c'est les anciens, c'est qui connaissent tout, voilà. Moi, je savais de quoi j'étais capable. Après, c'est, est-ce que la différence à Cannes, c'est que vous avez aussi la pression, quoi. Surtout à lumière, surtout dans la grande salle à lumière, surtout le soir à 19h, dans les officiels où c'est 2500 professionnels, quoi. C'est que des professionnels où, et la presse, faut pas les oublier, parce qu'ils vous ratent pas s'il y a un souci. Moi, c'est une fierté, en fait. Moi, c'est ma récréation de l'année, quoi, Cannes. Et voilà, même si j'ai fait quelques autres festivals, Cannes, ça sort du lot, quoi. C'est un gros truc. Enfin, moi, c'est une fierté pour moi d'être là où je suis à Cannes aujourd'hui, quoi. Pour moi et pour mes patrons, quoi.